Vous écoutez On lit pour vous.
Le mystère des planètes rondes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 février 2024 dans la presse. Question de la lectrice Brigitte Meunier. Pourquoi les planètes sont-elles toutes rondes? C'est une question de gravité. À partir du moment où un corps céleste atteint une certaine taille, il devient si massif qu'il se comprime sur lui-même, explique Eve Lee, une astrophysicienne de l'Université McGill, qui est spécialiste de la formation des planètes. Il y a des forces dans toutes les directions qui sont égales, ce qui mène à une forme ronde. Cette forme peut être un peu oblongue en présence de certains paramètres. S'il y a des marées importantes ou une rotation rapide, la forme sera moins ronde, dit Madame Lee. Dans la plupart des cas, les planètes sont un peu plus épaisses au centre en raison de la rotation. Il y a une force centrifuge au niveau de l'équateur. La Terre est ainsi 0,3% plus grande à l'équateur, ce qui équivaut à un rayon plus grand d'une vingtaine de kilomètres. Ce renflement équatorial, prédit par Newton au début du 18e siècle, a été confirmé de l'espace par le satellite américain Vanguard 1, lancé en 1958. Exoplanètes. Dans son travail, Madame Lee tente de comprendre comment les planètes se forment autour d'autres étoiles par comparaison à ce qui survient dans notre système solaire. Les premières exoplanètes ont été découvertes il y a près de 30 ans et on en compte maintenant 5000. Il y a deux grandes différences, dit-elle. Il n'y a pas de planète entre le Soleil et Mercure, alors que dans d'autres systèmes solaires, il y en a beaucoup. Et il y a un type d'exoplanète qui n'existe pas dans notre système solaire. On les appelle Super-Terre ou Mini-Neptune. Et pourquoi n'y a-t-il pas de planète entre le Soleil et Mercure? Il n'y a pas de consensus, dit Madame Lee. Une hypothèse propose qu'au départ, il y en avait, mais que la présence des planètes géantes Jupiter et Saturne a perturbé le centre du système solaire. Les planètes les plus proches du Soleil auraient été expulsées hors du système solaire ou alors seraient entrées en collision avec d'autres planètes. Une autre hypothèse est que notre système solaire avait moins de matière que la plupart des autres systèmes solaires. Cette particularité pourrait enfin être due à nos techniques actuelles de détection des exoplanètes. Actuellement, nos techniques sont beaucoup plus sensibles aux grosses planètes qui sont proches de leur étoile. Il se peut que nous manquions des planètes plus petites, situées plus loin de leur étoile. En savoir plus, source NASA, diamètre de la Terre 12 742 km. C'était Le mystère des planètes rondes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 février 2024 dans la presse.
Racisme environnemental. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça existe au Canada? Un texte de Mélina Nantel, paru le 1er mars 2024 dans Pivot. Les communautés autochtones et racisées sont touchées de manière disproportionnée par les risques environnementaux, comme ceux liés à la pollution, au déversement de déchets toxiques ou au changement du climat. Autant au niveau fédéral qu'à l'échelle locale, de plus en plus d'efforts sont mis en place pour lutter contre cette discrimination systémique visant à écouter et inclure les communautés concernées. Mais comment le racisme environnemental se manifeste-t-il au Canada? Le concept de racisme environnemental réfère à une forme de racisme systémique, c'est-à-dire une discrimination raciale perpétuée à même les institutions, les lois et les politiques. Il peut ainsi s'agir de discrimination raciale dans l'élaboration de politiques environnementales, par exemple en ciblant des communautés noires ou autochtones pour des installations de déchets toxiques, ou encore en excluant des groupes dans des emplois verts, ou même au sein des mouvements de lutte écologique. On peut penser par exemple à la communauté noire d'Africville en Nouvelle-Écosse, qui a historiquement souffert de sous-investissements en infrastructures et a été choisie par Halifax pour devenir le lieu d'une décharge à ciel ouvert. On peut aussi penser à la contamination toxique à laquelle sont exposés les résidents et résidentes de la communauté Mohawk près du dépotoir de Kanisatake, alors que les autorités tardent à agir. Les exemples de racisme environnemental au pays sont malheureusement nombreux. Mais comment ce racisme environnemental s'est-il construit sur le territoire? Comment est-il perpétué? Des racines coloniales. Pour comprendre l'ampleur du racisme environnemental au Canada, il faut examiner la question d'un point de vue historique. C'est ce qu'ont tenté de faire les chercheuses Sabah Khan et Catherine Halmich dans l'ouvrage « La nature de l'injustice ». Elles y partagent le constat que l'exploitation de la nature a avancé de pair avec l'exploitation des humains. Les colons ont dépossédé les peuples autochtones du territoire pour développer ce que l'on connaît aujourd'hui comme le Canada. En déménageant de force les peuples autochtones au sein des réserves, l'État canadien a permis l'installation de nombreux dépotoirs, usines de traitement, infrastructures d'extraction de ressources naturelles, sur les réserves ou très près de celles-ci. L'extraction du gaz naturel, par exemple, a souvent entraîné des catastrophes environnementales qui ont nui aux sources d'eau en territoire autochtone. Aujourd'hui, de nombreuses communautés autochtones demeurent privées d'un accès à l'eau potable. Le racisme environnemental est un fait de longue date au Canada, selon Samuel Lafontaine d'Environnement et Changement climatique Canada. L'aménagement racial du territoire a été perpétué bien après l'époque coloniale, si bien que le racisme environnemental touche aujourd'hui non seulement les communautés autochtones, mais aussi noires et racisées. C'est l'analyse que fait Musamil Gadin, coordonnateur de projet chez Black Environmental Initiative, BEI, une organisation à but non lucratif militant pour une meilleure justice environnementale. Le Canada a toujours été habité par des personnes noires. À travers le commerce des esclaves en Amérique, et plusieurs migraient au Canada pour y trouver une vie meilleure. Mais historiquement, il y a eu un déplacement des communautés, des inégalités territoriales qui se sont creusées, explique le coordinateur de BEI. Les impacts du racisme environnemental ne se limitent pas au niveau de la santé des résidents, résidentes. Dans des cas du déplacement de communautés entières, c'est l'établissement d'une culture, d'un sens de la communauté, qui s'en voit affecté. Un exemple concret est le quartier de la Petite Bourgogne à Montréal. Au milieu du 19e siècle, la communauté noire anglophone s'y installe afin de saisir les opportunités d'emploi, nombreuses grâce à l'expansion de l'industrie ferroviaire. Mais au fil du temps, la Petite Bourgogne est ciblée progressivement par le phénomène de gentrification. Les habitants, habitantes des immeubles locatifs sont expropriés et peu à peu, un véritable déplacement des communautés noires a lieu. Ce déplacement forcé entraîne une perte de la culture, de la communauté. Celle-ci se dissout, notamment à cause d'un manque de représentation des personnes de la communauté dans les instances de pouvoir, qui peuvent décider du jour au lendemain de lui demander de partir, explique Musamil Gadin. La santé en danger. Il demeure donc difficile de quantifier les impacts du racisme environnemental, tant ses conséquences sont multiples, autant physiques qu'émotionnelles, psychologiques, culturelles ou spirituelles. Le cas de la communauté Anishinaabe de Grassy Narrows, victime d'une intoxication au mercure, est un exemple criant des impacts concrets sur la santé physique, mais aussi sur la pérennité des traditions et la santé mentale des résidents-résidentes et des militants-militantes qui ont dû porter à bout de bras une lutte pour dénoncer l'injustice qui les frappait. De 1962 à 1975, 10 tonnes de mercure ont été déversées par une compagnie forestière dans deux rivières coulant dans la communauté de Grassy Narrows. Se propageant dans les lacs et contaminant les poissons, le mercure, ayant des effets neurotoxiques, continue aujourd'hui d'avoir des impacts sur la santé des habitants-habitantes. La bataille pour renverser la situation a été longue et pénible. Ce n'est qu'en 2019 que la Cour suprême du Canada a finalement ordonné aux entreprises responsables d'assurer la décontamination. Il aura fallu attendre 2020 pour qu'une équipe de scientifiques évalue les impacts de ce déversement qui était décrié par la communauté depuis plus de 50 ans. À Montréal, plusieurs études ont souligné l'existence d'inégalités territoriales. En effet, les quartiers à forte concentration de communautés noires et racisées, comme Montréal-Nord, présentent généralement une insuffisance d'espaces verts, qui contribue pourtant à la qualité de l'air et à la réduction des îlots de chaleur, mais aussi plus largement à la bonne santé mentale et physique des résidents-résidentes qui peuvent y passer du temps. L'absence de ces espaces expose les communautés à une vulnérabilité accrue face au réchauffement climatique. La question économique. La question économique est aussi un dommage collatéral du racisme environnemental, souligne Black Environmental Initiative. Pour l'organisme, le mouvement environnemental a été historiquement porté par des communautés blanches, faisant peu ou pas de place aux communautés noires et marginalisées. Celles-ci sont donc à la fois écartées de la définition des enjeux qui méritent d'être abordés et des solutions à défendre, mais aussi des emplois rémunérés qui existent dans le mouvement environnemental et l'économie verte. Face à ce constat, l'organisme a mis sur pied le projet Emploi vert, qui vise à former et mentorer des personnes noires au sein d'emplois dans les secteurs de l'énergie verte, des politiques environnementales et de la science du climat. Face au constat que les enjeux environnementaux vécus par nos communautés ne sont pas souvent priorisés par les décideurs, on croit qu'en formant davantage de personnes noires dans le secteur de l'énergie verte et de l'environnement, ces personnes pourront mieux lutter contre la crise climatique dans leur propre communauté, explique le coordonnateur Musamil Gadin. Encore du chemin à faire. Si le gouvernement Legault nie encore l'existence du racisme systémique, le gouvernement du Canada, lui, admet l'existence du racisme environnemental. Samuel Lafontaine, porte-parole d'Environnement et Changement climatique Canada, a expliqué à Pivot que le racisme environnemental est un fait de longue date au Canada. Le 8 février 2024, le gouvernement du Canada a lancé une démarche inédite de consultation publique afin de renforcer la loi canadienne sur la protection de l'environnement, en vertu du projet de loi C-226 visant à faire progresser la justice environnementale. Le gouvernement déposera d'ici juin 2025 une stratégie nationale pour prévenir et combattre le racisme environnemental. Pour Black Environmental Initiative, de tels développements sont de bon augure. Mais encore faut-il qu'il y ait une représentation adéquate des communautés concernées au sein des instances de pouvoir, sans quoi il serait étonnant que les réalités du terrain soient réellement comprises, croit Musamil Gadin. Tant que les gens au pouvoir sont déconnectés de la réalité quotidienne de nos communautés, comment sont-ils censés prendre des décisions pour nous? Demande-t-il. Si nous avons des gens au pouvoir qui vivent les conséquences d'un Canada raciste, ils seront en mesure d'implémenter des politiques et des efforts pour agir contre le racisme environnemental. Un autre constat évident, selon le coordonnateur de projet, est aussi l'ignorance collective dans laquelle se plongent de trop nombreux Canadiens et nombreuses Canadiennes. Un premier pas est de reconnaître le tort causé par les ancêtres colonisateurs, s'éduquer sur l'histoire du colonialisme au Canada et comprendre ses impacts continus sur la nature, le territoire, les gens. Muzamil Gadin rappelle aussi que la lutte au racisme environnemental se fera aussi avec les alliés, que ce soit en soutenant financièrement des initiatives pour la justice environnementale ou encore en étant bénévole pour un organisme de quartier, l'ensemble de la société pour offrir son appui aux communautés racisées et autochtones. C'était Racisme environnemental. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça existe au Canada? Un texte de Mélina Nantel paru le 1er mars 2024 dans Pivot.
Écrire sans les mains. Un texte de Mathias Germain paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. Des situations dramatiques, telles que les maladies paralysantes, encouragent à trouver des solutions pour réussir à communiquer malgré tout. Des expérimentations d'interface cerveau-machine montrent qu'il est possible d'écrire par la force de la pensée. Aussitôt pensée, aussitôt rédigée. Est-ce possible d'écrire en évitant le truchement de la main ou des doigts? Oui, il suffit de parler à un scribe, un secrétaire, une dactylo, un ordinateur doté d'un logiciel de transcription. Mais comment faire lorsque vous avez perdu la capacité de parler? Dans les années 1990, le journaliste Jean-Dominique Bauby, atteint du syndrome d'enfermement ou « locked-in syndrome », LIS, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, parvient à rédiger un roman autobiographique, « Le scaphandre et le papillon », en dictant chaque lettre à des proches par des clignements de sa paupière gauche. À la fin des années 2000, un artiste américain, Tempt One, alias Tony Kwan, atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, SLA, une maladie neurodégénérative qui le prive progressivement de ses mouvements, réussit encore à produire des graphes colorés grâce à un système de suivi oculaire conçu par une communauté d'informaticiens, de hackers et d'ingénieurs. Plus connu du grand public, l'astrophysicien britannique Stephen Hawking a aussi longuement souffert de la SLA. Malgré la maladie, il a continué jusqu'à sa mort en 2018 à s'exprimer et à rédiger des articles à l'aide d'un logiciel qui affichait des lettres, des chiffres, des raccourcis et un curseur qui parcourait l'écran. Cette interface a été expérimentée en 2021. Il s'agit de décoder, quasiment en temps réel, l'activité des neurones impliqués dans les mouvements de la main pour écrire chez un patient tétraplégique. Ce dernier, sur lequel on a implanté des micro-électrodes, s'est prêté à des exercices d'écriture mentale pour entraîner un algorithme d'apprentissage, un dispositif expérimental pour écrire par la pensée. Chaque fois que Hawking voulait cliquer sur l'une des options, il contractait un muscle situé sous son œil pour enregistrer l'action. Le procédé a ensuite été amélioré grâce à un système de prédiction et de complétion de mots. Pour cela, les informaticiens ont numérisé tous les livres et articles que Hawking avait écrits. Le logiciel est ainsi devenu capable de déterminer que, si Hawking formait le mot « black », noir, la probabilité est forte pour que le deuxième mot soit « hole », trou. Redoutablement efficace, car il suffisait à Hawking de taper deux lettres, en moyenne, pour aboutir au mot complet. Des progrès grâce aux interfaces cerveau-machine. Habitué à ce système, le célèbre théoricien n'a pas souhaité utiliser une stratégie plus radicale. Les interfaces cerveau-machine. imaginée dans les années 1970 par l'ingénieur américain d'origine belge, Jacques Vidal, elle vise à établir une communication directe entre les neurones et des ordinateurs. Schématiquement, ces interfaces se composent de trois éléments. Des capteurs qui enregistrent l'activité du cerveau, un ordinateur pourvu d'un programme informatique d'analyse et d'interprétation de ces signaux, lequel commande à une machine qui crée un mouvement, un son ou un signe. Depuis la conception de ces interfaces, de nombreux progrès ont été faits et un certain nombre d'entre elles sont aujourd'hui expérimentées pour restaurer les moyens de communication de personnes qui en sont privées. Deux stratégies sont explorées. La première consiste à capter l'activité cérébrale par l'électroencéphalographie, EEG. On pose à la surface du cuir chevelu un casque constitué d'électrodes qui mesure les différences de potentiel électrique engendrées par l'activité de larges populations de neurones. La seconde stratégie, elle, passe par la pose chirurgicale d'implants miniatures dans des zones ciblées du cortex afin d'enregistrer précisément les signaux d'un petit groupe de neurones impliqués dans la planification ou l'exécution de mouvements. Du fait de son caractère non-invasif, la stratégie utilisant l'EEG est, depuis la fin des années 1990, la plus éprouvée. Un des pionniers, le neuroscientifique américain Jonathan Wolpaw, s'est principalement concentré sur l'utilisation de rythmes d'électroencéphalogrammes enregistrés à partir du cuir chevelu afin de commander le mouvement d'un curseur à l'écran dans une ou deux dimensions et ainsi sélectionner une lettre ou une icône. Si l'EEG a l'avantage d'être non-invasive, elle a l'inconvénient majeur de ne pas pouvoir distinguer précisément l'activité de petits groupes de neurones, ce qui rend délicate la sélection du bon signal. Pour y parvenir, outre l'ajustement des algorithmes, cette stratégie nécessite toute la concentration de la personne sur cette tâche. Elle parvient, en moyenne, à produire une dizaine de caractères par minute. Malgré ces limitations, Jonathan Wolpaw a établi que, sur 40 patients souffrant de SLA et traités avec cette technique, un petit tiers a utilisé cette interface à domicile pendant plus de 18 mois. Tester des dispositifs chez des personnes privées de la parole. La stratégie des implants dans le cerveau a aussi été expérimentée. L'une des grandes avancées remonte à 2016, lorsque des neurologues de l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, ont implanté des électrodes dans le cerveau d'une femme diagnostiquée avec une SLA 8 ans plus tôt et alors paralysée de tous ses muscles volontaires à l'exception de ses yeux. Les électrodes ont été placées dans le cortex moteur au niveau des neurones impliqués dans le mouvement de sa main droite. Le principe, l'implant détecte l'activité des neurones lorsque la patiente pense volontairement à rapprocher son pouce et son annulaire. L'information est alors transmise par des fils électriques à un logiciel de dactylographie. Ce dernier affiche 4 lignes de lettres sur une tablette mettant en évidence une ligne à la fois. Lorsqu'il arrive à la ligne que la patiente souhaite, elle fait un clic cérébral en pensant au geste de la main. Ensuite, le programme suit la ligne sélectionnée, de gauche à droite. Lorsque la bonne lettre est mise en surbrillance, elle fait un autre clic. Lettre par lettre, elle énonce ainsi ses pensées. Plus remarquable encore, une autre interface a été expérimentée en 2021. Cette fois, les chercheurs américains, à l'origine de son développement, ont fait le pari de décoder l'activité des neurones impliqués dans les mouvements de la main pour écrire. Un homme de 65 ans, tétraplégique, a accepté d'expérimenter le dispositif. Celui-ci a été mis au point progressivement. Des micro-électrodes ont été disposées de façon à enregistrer l'activité des centaines de neurones voués au contrôle de sa main. Les neuroscientifiques ont tout d'abord enregistré, de manière continue, leur activité pendant que le patient s'efforçait d'écrire plusieurs fois des caractères qu'on lui dictait, une écriture essentiellement mentale, puisque sa main n'était capable que d'esquisser de micro-mouvements. Ils ont ainsi recueilli une signature neuronale pour chaque caractère. Ensuite, l'équipe a mis au point un algorithme d'apprentissage afin d'améliorer la vitesse de décodage de l'activité cérébrale du patient. Ce dernier a dû, à nouveau, se prêter à des exercices d'écriture mentale pour entraîner l'algorithme à prédire en temps réel, en fonction de l'activité cérébrale, la probabilité pour qu'un caractère soit celui que le patient veuille écrire. Avec ce système, le patient est parvenu à rédiger 90 lettres par minute à l'écran de l'ordinateur. Un résultat remarquable, proche des performances que les personnes bien portantes et de son âge réalisent sur leur smartphone. Environ 115 caractères par minute. Ce bel exploit ne doit pas faire oublier deux choses. La première, pour rêver d'écrire par la pensée, il est nécessaire d'apprendre auparavant à écrire. La seconde, les personnes tétraplégiques n'ont pas besoin de ce dispositif puisqu'elles peuvent, en grande majorité, parler. Le but sera donc de le tester chez des personnes privées de la parole, notamment celles atteintes de LIS. Un patient tétraplégique, âgé de 65 ans, est parvenu à rédiger 90 caractères par minute à l'écran de l'ordinateur. C'était « Écrire sans les mains », un texte de Mathias Gerbin, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche.